Radio Scoping, Eric Orsenna.
Jacques Chancel.
Huit jours après le prix Goncourt 1988, Eric Orsenna a-t-il bien assimilé et ses surprises et ses triomphes?
Il y avait une semaine qui est une sorte de formidable, merveilleux cataclysme. C'est vrai que...
Le raz-de-marée,
à partir de 1h02, 1h03, on est pris par le bras, par la dame qui s'occupe de vous, la Françoise Perrault, merveilleuse, et on est en bringué comme ça au café de Flore, et puis il y a des interviews dans tous les sens, etc. Et ça s'arrête à 23h, ça reprend à 7h30 le lendemain matin, et donc c'est un cataclysme absolu. Et puis ça dure une semaine, et puis il s'est trouvé que le vendredi matin, j'ai commencé une crève formidable, un rhume gigantesque, et il y a rien de mieux que...
Mais quel beau rhume !
Un rhume merveilleux, il y a rien de mieux qu'un rhume pour vous remettre les idées en place.
Alors, à 7h, la semaine dernière, lundi dernier, vous étiez dans la situation de celui qui peut savourer un triomphe, mais qui est quand même terriblement ennuyé. Il y a ce livre, Exposition coloniale, qui a déjà été donné comme un très grand livre, un très bon livre. C'était un événement dans la rentrée littéraire avec quelques autres livres, parce qu'on ne peut pas oublier que le livre de Bernard-Henri Lévy est un très 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 bon roman, également de Philippe Labro. Mais là, le miracle a eu lieu. Vous avez cru à ce miracle?
Non, moi, j'ai pas cru à ce miracle. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a une montée de chaleur, comme ça, qui est arrivée à partir du début du mois de septembre. Et puis, j'ai reçu des courriers qui venaient petit à petit. Et puis, je me suis dit, bon, ça serait formidable si j'avais une consécration comme le prix Renaudot. Et vous savez que le prix Renaudot, on vote le dimanche soir. Et le dimanche soir, ça y est, j'avais le prix Renaudot. Donc, j'étais joyeux, je sifflotais, etc. Il faisait un temps merveilleux d'automne le lundi matin. Je suis arrivé à la maison d'édition très joyeux en disant, bon, tout le monde va être content. Et puis j'ai vu une maison d'édition assez tendue parce qu'ils disaient non, mais il y a possibilité l'autre, etc. Et il y a eu 2 heures de folie, de tension, et puis l'annonce de François Nourricier. Donc je croyais...
Vous étiez où lorsque François Nourricier a fait l'annonce?
Dans le bureau de Françoise Perrault, qui est responsable des services de presse au Seuil, et j'étais là. Et puis il y a un méchant poste de télévision qui, honnêtement, c'est pas formidable, mais il marchait.
Il faudra le changer, vous pouvez leur en offrir un.
Je crois que maintenant ça y est, on va le changer, donc c'est bien. Peut-être même on ira jusqu'à la couleur, mais enfin, on ne sait pas. Vous savez, les maisons comme ça, chrétiennes de gauche, c'est un peu compliqué, mais enfin, on ira peut-être jusque-là. Et à 1h02 ou 1h03, il y a l'annonce de Nourricier. À ce moment-là, à partir du moment où on dit Eric, je reçois un formidable coup de poing dans le dos. Qui est Jean-Marc Roberts, dont je tiens à dire qu'il a un punch extraordinaire. Vous connaissez, des hurlements formidables, et à ce moment-là, la folie commence.
Eric, vous n'avez pas attendu Orsenna. Vous saviez que c'était vous, et vous avez prétendu à ce moment-là que c'était le bon choix.
Moi, c'est vrai que j'ai toujours dit que le livre de Bernard-Henri Lévy était un livre formidable, était un livre exigeant, était un livre très courageux, où il mettait des tas de choses, où il recréait toute la biographie.
De Baudelaire.
Où il y a des scènes extraordinaires, où il raconte un dîner chez Madame Hugo, où on raconte les dernières nouvelles, enfin une sorte de folie pour Hugo. Et il raconte des tas de choses exigeantes sur le catholicisme, sur le factice, sur des tas de choses. Non, c'est un livre que j'ai vraiment admiré, je l'ai dit depuis le début, je ne change pas du tout. J'ai une chance extraordinaire que...
Parce que la bataille a été dure.
La bataille a été évidemment terrible, parce que les enjeux sont très grands. Donc je suis très heureux et fier d'avoir été choisi. Mais moi, c'est pas ça qui me fera dire que le livre de Bernard Lévy n'était pas un bon livre. C'est un livre excellent.
Enfin, tous s'accordaient, Eric Orsenna, à juger votre livre tout à fait remarquable, comme 2 ou 3 autres dans cette situation. Mais si vous n'aviez pas eu le prix, vous auriez trouvé qu'il y avait injustice et que les jurés étaient parfaitement malhonnêtes? Vous me le dites franchement?
Je vous dis très franchement. Moi, je suis franc de nature et je vous dis très franchement. J'aurais trouvé ça d'autant moins malhonnête que, comme je vous dis, j'avais le prix Renaudot la veille. Donc, j'étais en situation de luxe absolu. Et puis, vous savez, quand on a fait un livre comme ça, qui est quand même relativement gros, où il y a des tas de choses, on a mis exactement ce qu'on voulait mettre. Quand on voit qu'il y a déjà des ventes...
Parlons des ventes. L'exposition coloniale, donc ce roman paraît aux éditions du Seuil, prix Goncourt 88. Lorsque ce livre est venu en librairie, une critique tout à fait favorable, totale, unanimité. Donc on peut dire peut-être 50 000 exemplaires
50
vendus.
50 000 exemplaires au moment du prix.
Ce qui, pour un roman...
C'est formidable.
Est formidable.
Formidable.
Il faut le savoir, parce que les romans, lorsqu'ils tirent à 10 000 exemplaires...
Mais c'est un rêve.
C'est déjà un rêve.
50 000 exemplaires, plus une traduction aux États-Unis, en Italie, en Espagne. Un rêve absolu.
Alors depuis lundi
Il y a eu en 4-5 jours 100 000 exemplaires en plus.
Ouais. Donc, et puis tout ce qui va venir maintenant, et nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année.
Oui, c'est bien là, comme ça. Moi, j'espère que dans les sapins de Noël, il y aura ça. Non, mais c'est vrai, c'est une place pour la littérature, les sapins de Noël.
Et pour vous, c'est une manière, comme vous l'avez dit, de passer de façon très heureuse le cap de la quarantaine, vous le pensez ?
Oui, parce que moi, je m'étais dit, de façon un peu arbitraire et un peu grotesque, je voulais m'offrir un gros cadeau pour mes 40 ans. Et ce gros cadeau, c'était un gros roman. Pour mettre un peu tout en même temps. Tout ce que j'avais là, en gros, statistiquement, ben, il reste en gros quoi, à la moitié si tout va bien. Donc je m'étais dit, on va mettre tout ça. Je voulais me faire une sorte d'arche de Noé, une sorte de grand catalogue Manu France. Et je voulais m'offrir ça, de gros cadeaux. Et moi, je crois que c'est une manière formidable de changer de dizaine. Et la prochaine dizaine, je vais aussi m'offrir un gros roman si, pour passer de
49
à 51.
Alors comment s'est déroulée cette semaine ? Plus d'état d'âme, le bonheur total, mais peut-être une forme d'inquiétude pour plus tard.
Non, la première, s'il y a 2-3 jours qui sont un emploi du temps tout à fait heurté, c'est-à-dire qu'on va d'interview en interview, on répète un peu des choses, on est pris, on n'agit pas, on n'est pas maître de son emploi du temps, et puis on n'y croit pas. C'est-à-dire, j'ai vérifié 100 fois dans les journaux en disant « je l'ai bien, on ne va pas me le retirer », enfin,
une sorte de sentiment d'escroquerie. Oui, mais 8 jours après, on peut réfléchir.
On peut réfléchir. Et puis, dans les premiers jours, il y a une sorte de petite cloque de bonheur qui arrive comme ça dans la tête, comme des névralgies heureuses qui arrivent. Et puis on dit, tiens, je l'ai, et puis hop, ça va, ça s'en va. C'est très, très fugace comme ça. Et puis ça s'installe petit à petit. Et puis on se dit, et ça, la grippe pour ça est formidable, parce que dans les grippes, on rentre en soi-même, et puis on se dit, allez, je vais recommencer à bosser. Et ça, bon, c'est la vie, hein. Moi, je ne peux pas vivre si je n'écris pas, donc je vais recommencer à bosser. Et le plaisir, c'est de recommencer à sa table, il est tôt le matin, les enfants dorment encore, et hop, on continue, et puis ça va durer, ça, c'est ma vie, ça.
Alors, Eric Orsina, ce que vous avez pu vivre dans le ralenti d'une grippe et dans l'accéléré d'un triomphe, c'est peut-être aussi la joie d'une famille et la joie de l'amitié.
C'est d'abord la joie de l'amitié. C'est en amont de l'amitié, c'est une longue histoire qui commence. Et je me suis rendu compte très très récemment, ça commence par un pneumatique. C'est étrange, c'est dans un livre qui traite de caoutchouc. C'est le pneumatique que m'a envoyé Jean Cayrol. Il faut savoir que s'il n'y avait pas eu Jean Cayrol, il n'y aurait peut-être pas eu ce livre. Parce que j'étais à un moment difficile de ma vie, je n'entre pas dans les détails, il y avait des divorces, des choses compliquées. Je vivais à Londres, Jean Cayrol a cru la première fois à mon livre. Et pendant 15 jours, pendant 2 ans, tous les 15 jours, il m'a envoyé un petit mot, continuez, vous êtes un écrivain, continuez avec un écrivain. Donc l'amitié, la confiance, c'était d'abord Jean Cayrol. Et puis après, Jean Cayrol a un certain nombre de fils. Il y a Michel Brodeau qui a fait un roman formidable aussi cette année, L'objet perdu de l'amour, qui est un livre inouï. Et il y a Jean-Marc Roberts. Tout ça, il y a une sorte de famille. Donc cette famille-là et la mienne, s'il n'y a pas cette famille-là, il y a moins d'ambition. Parce que je sais qu'avec eux, je peux craquer.
Et c'est le livre d'un déchirement, mais aussi d'une reconquête. Parce que vous étiez en pleine explication avec vous-même.
Oui.
Hein, il fallait prendre des décisions.
Il fallait prendre des décisions. Et il fallait aussi rassembler les contraires. Il fallait qu'on peut aimer un tel et une femme et puis une autre. Et puis, bon, pourquoi pas les aimer en même temps. On peut aimer une belle famille. Pourquoi pas dire aussi qu'on aime son père. Pourquoi pas, etc. Donc, c'est ça un roman. C'est encore une fois, c'est le catalogue Manu France. Moi, voilà.
Et pendant ces 8 jours, ce n'est pas long 8 jours, mais on finit quand même par faire un bilan, parce que vous avez l'habitude des allées du pouvoir, vous les avez beaucoup fréquentées, puisque vous avez été le conseiller à l'Élysée pendant 3 ans.
3 années, oui.
3 années, vous faisiez les discours du président ?
Non, enfin, on était un certain nombre à faire des premiers jets, mais comme il y en avait 8 ou 9 jets, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup, et c'était une période merveilleuse, parce que c'était une période d'action, où on peut se dire, période d'action et en même temps d'anonymat, parce qu'on n'était pas en première ligne, d'anonymat. Je peux dire que dans toute l'histoire du Louvre, et avec la formidable aventure du Grand Louvre, il y a peut-être 5 ou 6 000 personnes qui ont joué un rôle, je suis un des 5 ou 6 000. Et j'aime bien cette notion de service public, c'est-à-dire il y a un anonymat, quelque chose qui était bien avant vous, quelque chose qui est bien après vous, et on a apporté juste une petite chose. Alors, ça paraît un peu étrange de parler d'anonymat en parlant avec vous, une émission qui est Dieu sait écouter, mais j'aime bien rentrer aussi dans cette vague qui me dépasse complètement.
Alors vous êtes passé justement de l'anonymat à la popularité, parce que d'abord l'Élysée, et c'est vrai, vous êtes dans l'anonymat, ensuite mettre des requêtes au Conseil d'État, on est encore dans l'anonymat.
Ah oui, ça on peut le dire.
Cela permet d'écrire, et tout d'un coup, à 40 ans, à 40 ans, un prix Goncourt. Alors, on la vit bien, cette notoriété, où on a très envie de rentrer à nouveau dans un trou de souris pour faire l'autre livre.
Vous savez, moi, j'aime bien l'alternance, comme les principes démocratiques. J'étais profondément fier et content d'être à l'Élysée, où on faisait des actions, mais où il y avait 60 coups de fil par jour, où il y avait 10 rendez-vous par jour, où il y avait des lettres dictées, etc. Et puis, quand j'ai été remplacé par Frédéric Bredin, du jour au lendemain, il y avait zéro appel.
Zéro.
Et j'étais dans le roman, et ça, c'est une alternance. Donc maintenant, je suis prêt, pourquoi pas, à prendre d'autres missions, on reprendra. Mais c'est un luxe extraordinaire de pouvoir se bagarrer comme ça dans les hachures du temps, et puis brutalement se reprendre soi-même, et puis après se redonner de nouveau. Ça, c'est des luxes, ça, c'est les vies les plus luxueuses qui soient.
Mais le destin veillait quand même sur tout cela. Imaginons que vous soyez resté à l'Élysée, conseiller du président, et que ce livre soit venu en librairie et qu'il ait été dans les livres retenus au prix Goncourt. Je suis persuadé qu'on se serait interrogé, qu'on aurait dit comment on ne va quand même pas récompenser un conseiller de l'Élysée.
Mais j'aurais pas pu le faire.
Vous avez le droit d'être écrivain.
Oui, mais il y a l'écrivain et puis il y a le rythme. Et moi, c'est vrai que pendant 5 années où j'étais d'abord conseiller de Jean-Pierre Cotte et puis ensuite conseiller du président, je travaillais tous les matins. Mais il arrive un moment où il faut qu'on ait une plus grande maîtrise de son temps. Et au Conseil d'État, on travaille de façon tout à fait sérieuse, mais on est plus maître de son emploi du temps. Donc là, j'avais la possibilité de plus grande flânerie. Et surtout, je n'avais pas de téléphone. Le téléphone est un formidable ennemi de l'aventure qui est un roman.
Alors, il y a eu des tentatives d'écriture, mais on peut dire que vous avez quand même commencé assez tard.
Non, l'écriture, mon premier roman, j'avais 15 ans.
Ah oui, mais quel était ce roman ?
Il était complètement nul, il est jeté depuis. Mais j'en ai fait 11 avant de montrer le 12e à Jean Cayrol, qui l'a trouvé bien, et c'est le 13e qui a été
publié. Vous en avez fait 11 dans l'anonymat.
Ah oui, c'est clair.
Oui, d'ailleurs, vous avez commencé par un prix Roger Nimier. Voilà. Donc c'était peut-être le commencement d'une carrière littéraire. Vous vous rappelez ce livre, La vie à Lausanne ?
Oui, absolument. Moi, c'est le moment... C'est le premier coup de chaleur.
En 77.
Exactement. C'est le premier coup de chaleur qui est arrivé. Parce que sur ce livre qui vendait 5-6 000 exemplaires, mais il y a eu des gens qui l'aimaient bien. Et c'est vrai que ça, je me suis dit, au fond, la littérature qu'on présente toujours comme une jungle est peut-être le lieu de l'amitié. Et c'est vrai que beaucoup de choses me séparent de Geneviève Dorman, des tas d'opinions différentes, mais elle a eu une générosité sur ce livre, à propos de ce livre, qui a été admirable. Et depuis, il y a des amitiés qui ont monté. Et c'est vrai, encore une fois, que la littérature, pour moi, c'est parce qu'il y a l'amitié qu'on se lance là-dedans. C'est une formidable impudeur de raconter ces histoires, de raconter des histoires rêvées avec un père qui, bien sûr, n'ont pas été aussi intenses que l'on aurait voulu. Formidable impudeur de raconter un amour avec deux sœurs. Mais tout ça, ça marche encore une fois, parce qu'on a des amis et on sait qu'on peut craquer, ils pourront craquer aussi. Mmh. Donc on va plus loin.
Alors la littérature comme un cadeau.
D'ailleurs, comme un cadeau.
J'aime bien ce que vous avez dit. Le roman est la plus belle des machines à vivre, une sorte de tengeri, une sculpture de gaieté, de jeu, l'air du paquebot, la nostalgie de la terre conquise. Et alors on viendra au livre lui-même, mais les voyages... Certains des voyages que vous faites, que vous nous faites vivre dans ce roman, vous ne les avez pas faits. Et je veux dire que là, vous êtes d'une précision totale par rapport à la Indochine que je connais bien. Chapeau, parce que je sais que vous n'y êtes pas allé.
Non, j'ai pas. C'est vrai que j'ai pas été en Indochine. Je suis fasciné par l'Indochine depuis que je suis très petit. Mmh. Il se trouve que j'avais un oncle qui était militaire de carrière et on ne savait pas s'il était prisonnier ou non à Dien Bien Phu. Et vous savez, il y avait les postes de radio avec des yeux verts qui s'allumaient petit à petit et on lisait la liste des prisonniers. Et je me souviens, là, j'étais près d'Avignon dans une maison qui m'a beaucoup beaucoup ému et l'Indochine est arrivée là. Et l'Indochine est arrivée. Et depuis, ça n'a pas cessé. Les malheurs de ce peuple admirable, le concentré de
bêtises... Vous savez que c'est presque la guerre de 100 ans.
Si on
part des pavillons noirs, et même un peu avant eux, c'est la guerre de 100 ans, ce pays. Ça continue.
Et ce concentré de bêtises, les politiques ont été honteux pendant la 4e République.
Complètement.
Les politiques français, les politiques américains ont été scandaleux avec ces soldats. Moi, c'est pas du tout les soldats que je méprise, c'est les politiques qui les ont envoyés là-bas. Et voilà, alors, vraiment, quand j'ai retrouvé en plus les communautés vietnamiennes aux États-Unis, les Boat People, quand on voyait la noblesse qu'ils sont, il faut savoir ce que c'est, Boat People arrivant aux États-Unis, qui prennent un premier métier à 3 $, 8 heures par jour, un deuxième métier.
Même ici, à Paris.
Pareil, un deuxième métier, encore à 3 $, et le week-end, en plus, ils travaillent dans l'université pour monter, chapeau.
Alors voilà l'exposition coloniale, c'est le roman. Pour le lecteur non averti, je crois qu'il faut dire tout de suite que ça n'est pas tout à fait l'histoire vécue de votre famille, parce qu'on pourrait s'y tromper.
On pourrait s'y tromper.
On fait la connaissance quand même de Gabriel Orsena, fils de Louis Orsena, petit-fils de Marguerite Orsena, et il y a en toile de fond donc toute l'épopée du caoutchouc. Et ces trois personnages nous font croire que c'est vous, et pourtant, il faut savoir que Orsena est seulement votre nom de plume. Vous vous appelez en réalité Éric Arnoux, mais y a-t-il un Orsena dans la famille ?
Non, il y a beaucoup d'Orsena dans la famille. En tout cas, dans ma tête, il y a des Orsena. J'ai voulu prendre un pseudonyme parce que j'avais une carrière, entre guillemets, d'économiste. Alors, on disait un nom pour le sérieux, un nom pour le moins sérieux.
Oui. Et puis, ça arrange bien les choses.
Et puis, c'est très bien, voilà. Oui. Et en plus, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas construire une famille à cet Orsena-là ? Parce que cet Orsena-là, il était un peu seul.
Pourquoi avez-vous choisi Orsena comme nom, alors ?
Parce que c'est... j'ai une grande admiration pour Julien Gracq, et c'est la première phrase du Rivage des Sirtes. J'appartiens à l'une des plus vieilles familles d'Orsena. Et moi, j'aime bien les familles. Vous l'avez senti, j'aime bien les amis, j'aime bien avoir des enfants.
Non, il était important de dire que Julien Gracq était dans la première traversée.
Ah oui, il est là, bien sûr.
Et c'est pour vous, Éric Orsena, une manière aussi de s'inventer une famille. Je ne veux pas dire que vous répudiez la vôtre.
Non,
mais peut-être que vous n'en êtes pas tout à fait content et qu'il fallait la faire vivre d'une manière différente. Que font vos parents ?
Mon père dirige une petite entreprise, une entreprise moyenne, et il est président de quelque chose qui est extraordinaire, puisque c'est le Cercle Nautique de Versailles, c'est-à-dire qu'il préside l'association des rameurs sur le Grand Canal. Alors moi, je trouve que ça, c'est quelque chose d'infiniment poétique, de voir des huit qui rament là, sous le fantôme de Louis XIV. Ça me semble tout à fait merveilleux. Et ma mère a passé son bac très très tard, à 42, 43 ans, et puis elle est montée maintenant. C'est bien. Et maintenant, elle est enseignante à Nanterre. Voilà.
Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, ils se prennent pour des Orsena.
Sans doute. Là, l'identité commence à dériver, là. Et moi, ça me ravit, parce que je ne suis pas très sûr de mon identité à moi. Alors, je suis un peu terrifié de voir des gens avec des identités précises. Alors, j'aime bien quand les dérives arrivent dans les gens.
Le livre commence de cette manière, avec Orsena. Donc, exposition coloniale. Au commencement était la librairie. Je parle d'un temps où les livres avaient encore de l'importance. Vous imaginez la phrase que vous venez d'écrire, là ? Oui. Je parle d'un temps où les livres avaient encore de l'importance. Une époque assez reculée de notre histoire, séparée de nous par deux conflits mondiaux, quelques essais de génocide, l'érection décourageante de la tour Eiffel et d'autres événements moins considérables. Au commencement, donc, était la librairie. C'est là que je fus conçu, dans un environnement favorable aux bougeottes, récits de voyage, cartes marines, manuels d'hygiène tropicale. Alors, quelle était votre librairie ?
Moi, j'avais une librairie. Ma librairie était les librairies de Versailles. Moi, j'étais élevé d'abord à Paris, ensuite à Versailles. Et c'est vrai que les professeurs nous donnaient des bibliographies. Et c'est vrai que je faisais des fausses bibliographies, qui était 5 ou 6 fois ce que nous demandaient les professeurs. Alors ma mère n'était pas dupe du tout, ce qui fait que j'ai eu très très vite un nombre de livres tout à fait considérable. J'ai passé un temps infini dans les librairies à humer, à renifler. Enfin, c'était le premier départ. Il y a un autre départ, et ça c'est la première liaison avec le Brésil. Il se trouve que on avait un oncle qui avait choisi à l'âge de 20 ans de s'installer au Brésil. Mmh. Il était architecte, il a travaillé avec le grand architecte Niemeyer. Il est parti là-bas.
Et nous, Brasilia.
Voilà. Et nous, on allait l'accompagner au Havre, quand il prenait le bateau. Et alors un jour, je me disais, un jour je prendrai le bateau. Alors, pour reprendre la formidable phrase de Blondin, un jour nous prendrons des trains qui partent. Mmh. Donc un jour, je me disais, je prendrai des bateaux qui voguent. Donc c'était ça, je me disais. Et que dans notre famille, qui était une famille de petite et moyenne bourgeoisie, plutôt repliée sur elle-même, il y avait une sorte de rêve en disant, non, nous ne sommes pas simplement des petits et moyens bourgeois, nous sommes aussi des gens qui peuvent voyager. Regardez cet oncle brésilien. Moi, mon oncle d'Amérique était un oncle latino-américain. C'était pas du tout le fric, c'était l'aventure.
Qui vous a donné l'idée d'une famille comme celle-là et d'un voyage comme celui-là ? Bon, c'est vous d'abord. Mais quand même, y a-t-il eu à un certain moment la finalité d'une idéologie ? Parce qu'il y a exposition et il y a colonial.
Oui, moi, c'est pas une idéologie, c'est... J'aime bien les gens qui rêvent. Mmh. J'aime bien les gens qui rêvent des rêves qui les dépassent.
Mais vous avez rêvé aux colonies.
J'ai rêvé aux colonies, j'ai rêvé peut-être moins aux colonies qu'à l'Empire. Mmh. Il se trouve que j'ai vécu en Angleterre pendant 2 ans et je suis très frappé de la différence de vocabulaire. En Angleterre, on parle d'Empire, chez nous, on parle de colonies. L'Empire, c'est quelque chose qui rentre dans l'âme. Les colonies, on a l'impression qu'on a un petit peu peur, que ça sent un peu plus mauvais, qu'on est un peu honte, etc. On a des écrivains qui ont écrit sur nos colonies, mais on n'a pas Kipling. Kipling rentre dans le temps. Kipling est appris aux enfants. Anglais. Il y a aucun écrivain français qui est appris. Et c'est le voyage, et c'est la découverte, et c'est ces grands Anglais qui se mettent en smoking pour regarder le Kilimandjaro, etc., etc. Donc, ce qui me frappait, c'était moins les colonies. Moi, je suis pas du tout colonialiste, ça m'intéresse pas tellement. Mais c'est cette possibilité de seconde chance, cette possibilité de départ. Maintenant, on fait des voyages, mais on ne recommence pas sa vie. C'est ça qui me frappe, c'est la seconde chance. C'est ces gens qui disaient, bon, bah, ma vie n'est pas formidable maintenant, et on part. Ce que c'était que les administrateurs coloniaux, je raconte tout à fait le début de l'école de la France d'outre-mer, ce qu'on appelait colo, c'était assez extraordinaire.
Alors, c'est formidable de sortir de colo.
Ils ont fait des choses qui n'étaient pas merveilleuses.
C'était l'ENA à l'époque.
Mais c'était l'ENA plus
le voyage.
Plus le voyage.
L'errance.
Et plus la responsabilité totale sur des territoires gigantesques. Donc, il y a comme ça des légendes, des choses qui vous dépassent, qu'on n'a plus tellement. Maintenant, c'est vrai que l'Europe, on n'a pas tellement de choix, mais une chose est d'aller, je sais pas, au Soudan ou à Hué, une autre chose est de s'installer, je sais pas moi, à La Haye.
Alors disons tout de suite que l'exposition coloniale, votre livre, Éric Orsenna, votre roman, c'est d'abord l'Empire des rêves. Alors dans ces rêves, il y a de grands voyages, ceux que vous avez su faire. Là, je vois que vous connaissez bien l'Angleterre, donc on peut comprendre que vous racontez bien l'Angleterre. Il y a le Brésil. Vous connaissez bien le Brésil pour des raisons familiales.
Oui, j'ai fait des voyages au Brésil. J'ai fait d'innombrables voyages au Brésil. Et j'ai fait notamment deux voyages qui m'ont énormément frappé dans la forêt amazonienne. Il se trouve que me trouvant là, étant dans un aéroport à la frontière de la Bolivie, j'entends parler avec un accent, et qui est un accent breton. Et il se trouve que c'était des pères, des missionnaires qui étaient là, enfin, et qui habitaient Ploubalanec, qui se trouve être à 7 km de l'île de Bréa, l'embarcadère pour Bréa, etc. Et j'étais avec eux pendant 2 fois 15 jours, ils soignaient les lépreux. Et là, voir ce que c'est que les gens qui vivent dans la forêt, qui réussissent à vivre dans la forêt, c'était une expérience extraordinaire. Ça, j'ai vécu ça vraiment de l'intérieur.
Éric Orsenna, il y a aussi l'Indochine. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et là, vous n'y êtes pas allé, mais un romancier a le droit d'être imaginatif. Mais ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que sur les lieux, vous ne vous trompez jamais. Alors là, bravo, mille fois bravo. Alors au début de votre livre, le lecteur est invité à suivre les tribulations de Gabriel, le héros, Gabriel Orsenna, qui, rappelons-le, né en 1883 à Levallois. Pourquoi Levallois ? Il fallait bien le faire naître quelque part.
Non, pas du tout. Levallois, c'est le moment... c'est l'endroit où on peut voir peut-être le mieux en France le passage entre la civilisation de l'animal à la civilisation de la voiture. Mmh. Parce que à Levallois, qui est une ville donc, qui vient d'être créée, qui a été créée il y a 20 ans auparavant, vers 1860, qui a été créée là, se sont concentrées les écuries et puis les gens qui fabriquaient les landaus, les voitures, etc. Quand les chevaux disparaissent petit à petit, remplacés par les moteurs, évidemment, où est-ce qu'on va construire les moteurs ? Bah là où on sait construire les roulements, où on sait construire les suspensions. Donc la voiture automobile remplace petit à petit la voiture hippomobile, les chevaux. Et donc les animaux s'en vont avec toutes leurs odeurs, peut-être pestilentielles mais vivantes, remplacées par d'autres odeurs qui sont les odeurs de machines, etc. Donc l'arrivée du monde industriel, on peut merveilleusement le voir à Levallois. Et moi je crois que un roman c'est l'art, si c'est un art du détail, de l'ancrage d'un lieu. Regardez les merveilleux exemples de Garcia Marquez. Son village, c'est toute l'Amérique latine.
Il y a la nécessité aussi, parce que vous parlez de Levallois, et l'expliquant comme vous l'expliquez, on voit mieux, c'est vrai, les petites voitures qui commencent.
Et on voit les petites voitures, on voit aussi la bicyclette.
Oui, la bicyclette. Et on va jusqu'où ? Oui. On va jusqu'aux grandes voitures, parce qu'on parle des grands prix dans votre livre.
Évidemment.
On arrive jusqu'à quoi ? On arrive jusqu'au caoutchouc, c'est-à-dire jusqu'aux roues.
Exactement, mais le...
De roue à roue.
Exact. Sans caoutchouc, il n'y a presque pas de transport. Qu'est-ce que c'est que le caoutchouc ? Quand on voit ce que c'est entre... Le caoutchouc, ça permet d'avoir des rapports de bonne compagnie entre une roue et le sol. S'il n'y avait pas de caoutchouc, la roue et le sol se battraient dans un vacarme épouvantable. Il y a une douceur que donne le caoutchouc, semblable à... ce qu'essaye de donner la démocratie entre les êtres humains. C'est ça qui m'a frappé dans le caoutchouc. Caoutchouc, c'est une manière de raconter le siècle de façon extraordinaire. Je ne parle même pas des préservatifs.
Vous connaissiez les plantations ?
Oui, non, je ne connaissais pas les plantations. Je connaissais les arbres sauvages au Brésil, parce que le formidable de cette affaire-là, c'est que le caoutchouc, c'est l'histoire d'un hold-up. Les Anglais prennent des graines d'arbres au Brésil, où ils ne poussent que sauvages, les EVA, les arbres à caoutchouc, à latex, et ils le transportent en Asie, où les arbres acceptent d'être civilisé, c'est-à-dire planté. Formidable. D'un côté, le baroque sud-américain, et de l'autre côté, la sorte de sens de la discipline de l'Asie.
Vous n'avez jamais eu envie, Eric Orsenna, d'aller jusque dans ce sud-est asiatique, du côté des terres rouges, qui était vraiment le territoire du caoutchouc?
Si, je voulais y aller, mais un certain nombre de fois, j'aime bien faire un travail d'érudition, érudition tout à fait inutile, qui n'amuse que moi, mais c'est vrai que l'Indochine, j'ai vécu en Indochine pendant 4 ou 5 mois à la Bibliothèque nationale. Et je vous assure, il y a une dimension indo-chinoise à la Bibliothèque nationale, 5-6 heures vers le soir, quand on est en plein dans le monde de Hué, on a l'impression de voir les chapeaux là relativement pointus et évasés, on a l'impression de voir les rizières, etc. Moi, je n'avais pas besoin de me forcer pour me croire en Indochine.
Mais vous partirez pour Hué un jour, vous irez dans la Cité interdite, vous irez voir un peu si vos rêves sont exacts.
Ah, c'est prévu, c'est théoriquement la prochaine fête du Tête.
Alors, il y a cette fête, ou plutôt, non, pas cette fête, il y a cette famille étrange, fantastique, parce que s'il y a Gabriel, qui est le personnage, disons, central du livre, il y a aussi Louis. Et de temps en temps, Louis, qui est le père, lui vole facilement la vedette.
Oui, parce que Gabriel rencontrera, à l'âge de 17 ans, deux femmes qui vont être...
Les deux femmes sont importantes.
Les femmes de sa vie. Alors que Louis est un cavaleur. Dès qu'il voit un jupon frémir quelque part, ses yeux brillent, il court, il s'en va.
Vous préférez lequel ?
Tous les deux. Moi, je n'ai pas de préférence. Comme avec les femmes, c'est dur de préférer. Mais je préfère pas plus un homme plutôt qu'un autre, une femme plutôt qu'une autre. C'est très dur. C'est ça, moi. Ils sont ensemble dans le bateau. Et l'ensemble fait une croisière. C'est ça.
Mais c'est une errance que vous avez souhaité raconter. C'est-à-dire un grand départ, parce que la France est toute petite. Et il y a cette petitesse qui est racontée d'ailleurs par Marguerite, parce que Marguerite est la grand-mère.
Attendez, c'est la grand-mère de Gabriel.
Voilà. Alors, toute chose lui était bonne pour déplorer la petitesse de la France. La largeur de la Seine, tu te rends compte, Gabriel, qu'on ne voit jamais l'autre rive de l'Amazone. Et c'est vrai. La force des précipitations, à moins de 100 mm par heure, qu'on ne parle pas de pluie. C'est vrai, ici, on parle de pluie. Bon, la grosseur des œufs, décidément, Gabriel, les poules tempérées ne savent plus pondre. Mais sa plus grande attention, désolée, était pour la map monde. Elle avait beau revenir joyeuse d'un vent d'honneur, un simple coup d'œil sur le globe l'a plongée dans l'amertume. Regarde, Gabriel, notre tache rose n'est rien comparé à l'Amérique ou à la Russie. D'ailleurs, depuis quelque temps, notre empire stagne. Décidément, mon pauvre Gabriel, tu tiens de la France. Tu tiens de la France, ça voulait dire tu es petit comme la France. Et il y a aussi quand même cette nostalgie. Elle est amusante chez vous, Éric Orsenna. Vous, le conseiller particulier du président de la République, de gauche, vous regrettez l'Empire.
Vous savez, la droite n'a pas le monopole de la nostalgie. Moi, je me sens, c'est vrai, ma famille, c'est la gauche pour une raison. Pour deux raisons, peut-être. La première raison, c'est que j'aime pas le mépris envers les gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de droite qui n'ont pas de mépris, mais il y a une forme de la droite qui méprise plutôt. Et puis c'est vrai, j'aime pas l'argent quand l'argent domine les vies et les sociétés. Alors voilà, en gros, comme ça. Bon, c'est vrai que c'est ma famille, mais moi je suis très nostalgique. Moi je me sens dans une situation un peu inconfortable. Un des moteurs de la gauche, c'est la croyance au progrès. Moi je crois pas au progrès. Ou du moins, il faut vraiment que je sois le champion de la méthode Coué pour y croire. Je reviens d'Afrique, là, j'étais pendant une semaine au Togo, je dois vous dire que c'est une drôle de situation. Et quand on voit ce qu'on a fait du front de Seine, c'est qu'on voit juste de l'autre côté de la maison de la radio. Moi, si je voyais les architectes du front de Seine, j'aimerais leur tordre le cou. Où il y avait avant, le Veldiv, le bar de la marine, etc. On peut construire des choses formidables, mais qu'on construise vraiment de l'architecture et pas ces monstruosités. Donc le progrès, il faut drôlement que je me batte les flancs pour y croire. Donc vous voyez, je suis dans une situation comme ça. Quand on lit le livre de Condorcet, ce qui l'animait au XVIIIe siècle, c'est que le lendemain serait mieux que la veille. Il croyait à ça, dur comme fer, il se battait pour ça. Moi, je ne peux pas dire ça.
Non, mais ce qui est absurde, surtout, c'est la notion de droite et de gauche. Oui, plus encore que tout le reste, peut-être.
Oui, sauf que droite et de gauche, ce n'est pas très bien. Simplement, il y a des gens, c'est vrai, pour qui l'argent compte plus que pour d'autres. C'est vrai qu'il y a des gens pour qui le mépris de certaines catégories sociales ou d'autres, ils acceptent un mépris. Moi, le mépris, c'est ce qu'il y a de plus dégradant pour quelqu'un qui l'éprouve, c'est vrai.
Nous parlions, Éric Orsenna, du rêve. Et Louis dit à son fils Gabriel, tu vois, Gabriel, notre vraie maladie. La vraie maladie grave de la famille Orsenna, c'est le rêve. Qu'avons-nous de réel, Gabriel ? Toi ton caoutchouc, moi mes invités, Marguerite son salon mexicain. Ce n'est pas assez pour vivre une vraie vie, Gabriel. Nous flottons dans les rêves. Et je crois que, à la vérité, vous, Eric Orsella, vous flottez dans les rêves. C'est ce qui fait avancer.
Moi,
c'est
les
ce
rêves,
qui installe la réalité.
Vous savez, il y a
le rêve est une création.
Dans Cervantes, il y a cette phrase formidable, c'est « les rêves engendrent les rêves ». Et c'est vrai que dans cette famille-là, les rêveurs engendrent les rêveurs. Et c'est vrai qu'il y a un débat perpétuel dans ce livre entre Louis, qui est un dragueur, mais quand il est avec une femme, la femme est là, alors que Gabriel est amoureux de deux reines, les reines pouvant être définies comme des femmes qui ne sont jamais là tout à fait. Elles ont beau être près de vous dans un lit, on se dit, bon, elles sont déjà parties, des nomades. Donc, le père veut des femmes qu'il appelle roboratives, qui sont vraiment là, alors que le fils est déjà parti. Et c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas un sens très précis de mon identité. Et c'est vrai que je ne suis au fond qu'une succession de rêves, c'est vrai.
Il y a cette période londonienne qui est très importante dans votre livre. C'était une manière de ressusciter un passage que vous avez personnellement assuré.
Oui, c'est aussi le fait que Londres, l'Angleterre par rapport à la France, c'est une première étape vers l'Amérique latine. C'est-à-dire qu'on tord un petit peu le cou à la réalité. Si on a une réalité très très dure, très 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 assise, très arrêtée en France, en Angleterre déjà la fantaisie bouge. Il y a un peu, c'est un peu décalé. Un petit peu décalé. Déjà, on commence à voir un petit peu la magie qui est là. Et en Amérique latine, tout parle. Les forêts parlent, les objets parlent. C'est formidable. Parce que les livres de Garcia Marquez, ou de Carpentier, ou d'Asturias, etc., on s'aperçoit que le monde entier commence à parler. Alors que chez nous...
Georges Amado au Brésil.
Oui, au Georges Amado, que j'ai vu à Salvador et qui ouvre des portes. On s'aperçoit que l'univers parle. Et ça, quand j'ai compris ça, que l'univers parlait, je me suis dit, mais c'est formidable, il faut encore plus tendre l'oreille. Je pensais n'être que voyeur, je me suis dit qu'en plus, j'étais un formidable auditeur.
Alors, si maintenant on s'attarde un peu sur l'itinéraire des Orsena, on s'aperçoit que tout part de Levallois, vous avez dit pourquoi, à l'origine, vraiment, la petite voiture, le vélo, pour arriver ensuite au bolide des Grands Prix, c'est-à-dire au caoutchouc, qui carrosse les roues, Levallois, Londres, Manaus et Huée. Ça pourrait être un itinéraire valable.
C'est un itinéraire où ça peut aussi être, et on peut aller plus loin jusqu'à Dien Bien Phu. Qu'est-ce que c'est que Dien Bien Phu en fait? Quand on voit concrètement ce que c'est. C'est donc une cuvette, c'est entouré des Français qui sont là, mais pas seulement des Français. Il y a une trentaine de races qui sont là pour l'armée française. Et puis tout autour, il y a des Vietnamiens. Donc Dien Bien Phu est aussi un peu une exposition coloniale. La fin de l'Empire, c'est aussi que Dien Bien Phu tombe, mais que tous
une
ces gens...
Une terrible exposition.
Terrible, coloniale. Terrible. Et la responsabilité des politiques est gigantesque dans cette affaire-là. Et tout autour, qu'est-ce qu'il y a? Des bicyclettes. Parce que sans les bicyclettes... Sans les bicyclettes.
Il n'y aurait pas eu de triomphe Viet Minh sans la bicyclette.
Mais jamais, jamais. Il y a cette phrase formidable de Giap. Il dit « Les bicyclettes de Manu France ont été nos taxis de la Marne ». C'est une phrase formidable. Donc, on s'aperçoit que, au fond, on pourrait appeler Dien Bien Phu le vélodrome d'été. C'est un vélodrome, c'est-à-dire un endroit où il y a des bicyclettes. Donc, c'est ça qui me frappe dans l'histoire. C'est les éléments les plus concrets, la manière dont l'histoire avance. C'est par les bicyclettes, c'est pas par les grandes idées.
Et puis, il y a aussi dans le livre une très belle relation entre le père et le fils. Et moi, je me suis demandé, Eric Orsena, le romancier, a-t-il cette relation avec son père?
Bien sûr que non. Moi, tout le monde aimerait avoir une relation avec son père. Je serais fou si mon fils pouvait avoir cette relation avec moi. Mais tout ça aussi, c'est un peu vrai et c'est en même temps du rêve. Et j'ai voulu, c'est vrai, à cet âge-là, un peu de bascule à 40 ans, de voir ce que pourrait être une relation entre un père et un fils. Et c'est vrai qu'il se voit dans le livre, et c'est pas vrai tout à fait dans la réalité, il se voit chaque lundi, et ils ont ce qu'ils appellent ensemble des déjeuners de réalité. C'est-à-dire, le père essaye de dire à son fils, mais arrête de rêver, essaye de voir la vie comme elle est, comme disent les parents, à quelque âge qu'ils aient, vous savez très bien, c'est ce qu'ils vous disent sans arrêt. Donc, essaye de voir la vie comme elle est, et puis le fils continue à rêver.
Quel âge a-t-il, votre fils?
Mon fils a 8 ans, c'est-à-dire l'âge du livre, en fait.
Là, oui, mais vous ne pourrez peut-être pas lui parler comme ça tout de suite, mais dans 5-6 ans, vous lui parlerez des femmes, de l'amour, et vous lui direz ce qui est dit dans le livre, par exemple, les hommes savent peut-être commencer, Gabriel, mais les femmes savent finir. Et un peu plus loin, si au moins les femmes qui partent avaient une tombe, on aurait un but de promenade.
Bah, je lui parlerai des femmes parce que c'est vraiment une des choses qui m'intéresse le plus dans la vie. Alors pour l'instant, lui, les femmes, il ne s'intéresse pas du tout à ça. Je vais vous dire, il s'intéresse à des tas de choses, mais les femmes...
Non, mais j'ai dit dans quelques années.
Pas du tout, oui, justement. Mais alors, déjà...
Dans
mais,
on ne peut pas dire ça, un enfant
voilà,
de 8 ans.
Voilà, bah, s'il y en a qui s'intéressent plus, moi j'ai des amis de mon fils qui s'intéressent déjà aux femmes assez, de façon assez précise, lui, pas tellement. Mais il s'intéresse à des tas de choses, et c'est vrai qu'en sortant de ce film russe admirable qui s'appelle Dersu Zala, il s'est retourné vers moi, il a dit « Mais alors, la forêt vit !» Et ça, voilà, ça c'était merveilleux, c'était un grand moment, ça.
J'ai oublié Eric Orsenna dans l'itinéraire, c'était repartant de Levallois, j'ai oublié Clermont-Ferrand, quand même.
Oh bah, c'est bien sûr... Ouais, voilà, c'est bien
quelle
sûr,
erreur,
la,
quelle
c'est,
faute
oui, non, mais c'est bien sûr la grande, grande capitale du pneumatique. C'est formidable de voir qu'à Clermont-Ferrand, entouré donc de ces masses assez dures, de ces montagnes plutôt sévères, on est là, une des deux capitales mondiales du caoutchouc, enfin, du pneumatique. Et Dieu sait s'il y a des êtres qui sont peu caoutchouteux et peu élastiques, c'est bien les Auvergnats. C'est vrai que c'est formidable. Là, c'est le destin de la ville de Clermont-Ferrand.
Et puis, dans ce livre, vous frappez de temps en temps sur tous les terrains, vous faites des touches sur tous les tableaux, vous amusez avec tout ce que vous avez connu. Par exemple, vous parlez des ambassades. Et vous dites ceci, ou plutôt vous écrivez ceci, une ambassade est une sorte de pension de famille. Et comme dans les pensions de famille, il y règne à la fois un sentiment d'exil, une couleur de meubles loués ou rachetés à des prédécesseurs, une odeur de cuisine en sauce imprégnée dans les murs, une manie des cancans, une passion pour les vies antérieures, une attente peu discrète du courrier, quelques rêves de promotion perdus dans la résignation générale, une sensation de vivre dans un catalogue parmi des types humains. La vieille fille passionnée de sport, le célibataire endurci, la femme du conseiller folle de son corps, le chiffreur qui amasse des notes pour un roman à venir. Et regardant tout cela, je m'aperçois que dans beaucoup d'ambassades, disons il y a quelques années, on ne va pas parler d'aujourd'hui, mais nous avons connu ces gens-là.
Non, mais ils sont encore là.
Ils sont toujours là. Ouais, alors, voyons, là, la vieille fille passionnée de sport, oui.
Ah oui, oui, bien sûr.
Le célibataire endurci, oui, plus que jamais.
Plus que jamais.
La femme du conseiller folle de sang encore, plus que jamais.
Il y en a, enfin, je suis content de savoir que...
Le chiffreur qui amasse des notes pour un roman à venir, là, je dirais qu'ils sont plusieurs.
Oui, il y en a beaucoup.
Il y a même l'ambassadeur.
Il y a même l'ambassadeur.
Oui.
Il y a même l'ambassadeur.
Et le secrétaire d'ambassade, et le conseiller d'ambassade.
Toujours. Là, ils sont presque tous écrivains. Oui. Mais ils font des dépêches.
Vous les avez regardés de très près, quand même.
Bien sûr. Vous savez, quand j'étais avec Jean-Pierre Cotte au ministère de la Coopération, j'étais au Quai d'Orsay, et puis je voyageais énormément. Donc je voyageais tous les 15 jours un petit peu partout. Et là, j'ai vu ces gens qui sont assez formidables. C'est pas très évident de vivre aussi loin de chez soi, et de vivre très longtemps si loin de chez soi. Et c'est vrai que quand on voit des gens, par exemple, qui sortent de l'ENA au Quai d'Orsay et qui refusent de partir, bon, bah, c'est quand même un peu étrange. Eux, ils acceptent de partir, mais c'est pas tout à fait confortable de partir si loin.
Je voudrais savoir, Eric Orsenna, pourquoi vous avez emprunté à Aragon, pourquoi vous avez mis cette petite phrase à l'exergue que je vais maintenant vous faire entendre. Celui qui a inventé Tristan et Iseult, peut-être qu'à la fin de sa vie, il passait devant une maison au volet fermé et qu'il détournait les yeux.
C'est un peu là, ça, c'est une phrase qui est tirée de Blanche ou l'oubli, qui est l'admirable roman de, à la fois de, enfin, d'une sorte de désespoir, mais qui reste une vie entière. Et ça me rappelle une autre phrase, qui est une phrase de Flaubert, qui dit « Nul ne sait combien il a fallu être triste pour entreprendre de reconstruire Carthage », en parlant de Salammbô. Et on n'imagine pas, quand on construit comme ça des tas de choses. Quel est le moteur qui est le moteur un petit peu plus grave ou le moteur de la tristesse? Et c'est vrai que Gabriel a une formidable gaieté, une formidable gourmandise, un appétit de vivre sur un fond d'inconsolable. Et moi, je crois que l'articulation entre la gaieté, comme ça, et puis l'inconsolable, ça fait des vies.
Beaucoup de vos lecteurs, qui, par exemple, ne nous écoutent pas en ce moment, beaucoup de vos lecteurs à venir, vont sûrement penser que c'est une biographie que vous racontez l'histoire de votre famille. Vous auriez envie de démentir si vous les rencontrez?
Pas du tout. C'est une famille possible. Je viens de là aussi.
Vous n'avez pas honte, hein?
Pas du tout, mais j'ai honte de pas grand-chose.
Parce qu'elle est folle.
Elle est assez folle, mais j'ai honte de pas grand-chose, et surtout pas de cette folie-là. Et c'est vrai que je viens aussi de là. Ce que j'ai retrouvé, c'est de là où je venais. J'essayais de voir mon... J'ai voulu essayer de recréer mon arbre généalogique. Parce que en tant qu'Orsenna, je me sentais un peu seul, et je me disais, tiens, je vais faire pousser un arbre et je serai en dessous de cet arbre. J'ai une passion pour le dessin des arbres généalogiques. Donc voilà, donc moi je viens de là. Vous savez, on vient toujours de ce qu'on invente. Hein.
Dans la filiation, votre fils s'appellera Orsena à côté d'Arnoux.
Non, pas du tout.
Arnoux Orsena.
Non, pas du tout. J'espère qu'il aura d'autres rêves, qu'il s'inventera d'autres identités, qu'il voyagera énormément. Son problème sera sûrement que, comme moi, je suis une formidable gourmandise à appétit, je suis un peu partout. J'aime être partout. Quand il y a un endroit où je ne suis pas, je suis malheureux. C'est une sorte d'exil. Donc j'essaye de forcer la porte, quel que soit le milieu. Alors, ça sera sans doute un petit peu dur pour lui d'être dans un endroit où je n'ai pas vraiment... voilà.
Et vous êtes tellement boulimique que ce prix vous apporte la liberté. J'espère que vous aurez vraiment de très, très nombreux lecteurs. On peut prévoir, je ne sais pas, un tirage de 300 000 pour très bientôt. Cela vous donne toute la liberté de vivre ce côté ambulatoire. Vous n'allez pas en finir de voyager. Non, mais c'est vrai.
Ah, c'est sûr,
ça n'a pas de prix.
C'est la liberté et rien... Enfin, pour moi, rien n'a de prix comme la liberté. C'est vrai que c'est incroyable ce que les jours prennent du goût quand on a abandonné l'idée de carrière. C'est vrai que moi, j'ai eu une chance gigantesque jusqu'à présent. Il se trouve que, bon, j'ai 41 ans et que les jurés m'ont fait ce cadeau, que, par ailleurs, je suis au Conseil d'État où je me sens bien.
Vous allez quitter le Conseil d'État ?
Pas du tout. Moi, j'aime bien, étant donné cette maladie du rêve qui m'habite, j'aime bien avoir une sorte d'endroit rigoureux, logique, qui est en fait mon pilotis. J'aime bien avoir cette articulation entre les deux. Autrement, je me demande ce qui se passerait. J'ai l'impression que j'éclaterais, que je serais en mille morceaux.
Alors, vous avez, plus qu'avant, toutes les possibilités de voyage. Mais disons quand même que votre poste très particulier vous permettait d'aller au bout du monde. Mmh. Alors, serez-vous totalement égoïste ? Allez-vous faire des voyages de solitaire ou allez-vous entraîner votre famille jusque dans les bouts du monde ?
Ah non, moi, s'ils sont prêts à me suivre, moi, je les entraîne dans le bout du monde. Sauf pour certains paris que je me suis fait à moi-même, et je crois que c'est pas formidable.
Qui sont des paris de solitaire.
Depuis, moi, je suis en partie breton, et c'est vrai qu'il y a un rêve absolu pour tout breton, c'est de passer un jour à la voile de Cap Horn. Alors, moi, je suis assez trouillard de tempérament, et je me suis dit, un jour, il faut le faire.
Donc, voilà. Vous le ferez.
Alors,
vous engagez. Le risque.
C'est pour ça que je le dis, parce que je me sais tellement trouillard que je le dis devant vous, comme ça, maintenant, je suis obligé de le faire.
Obligé,
alors,
là.
Voilà, alors, je sais
autrement,
pas.
Autrement, vous êtes vraiment trouillard.
Ah, oui, non. Mais ça, de toute façon, je suis trouillard, mais je serai encore plus trouillard. Donc, je serai d'abord trouillard, en même temps, par jour, ce qui est quand même un peu beaucoup.
Sur l'honneur, je m'engage à passer le Cap Horn. Redites-le-moi.
Exactement, sur l'honneur, je m'engage à passer le Cap Horn. Et puis, si jamais je fais glou-glou. Je donnerai votre adresse à ma veuve et aux enfants.
Mais ça, heureux de les accueillir, ça n'arrivera jamais.
Voilà. Bon. Voilà. Mais autrement, c'est vrai que il y avait un rêve absolu avec mon fils. Je disais que si jamais le livre commençait à se vendre, nous partirions au Kenya voir les animaux du haut des arbres. Et comme le livre commençait à se vendre,
en montgolfière.
Voilà. Oui, non ça parce que j'ai un peu le vertige. Mais vous voyez, donc je suis vraiment trouillard. Mais là, comme il commençait à se vendre, donc nous allons partir et nous verrons les animaux. Voilà. Et puis avec le mont Kenya ou le Kilimanjaro dans le fond. Et là, je dois vous dire, vraiment fou de joie. Et puis, avec Hemingway dans le fond, etc. Enfin, là, c'est vraiment le rêve absolu.
Vous êtes, dans le même temps, grand lecteur. Vous lisez beaucoup.
Oh ben, moi, c'est ma vie.
Alors, les derniers livres, ceux que l'on pourrait recommander. Vous avez parlé tout à l'heure du livre de Bernard-Henri Lévy.
Oui, il y a...
Les derniers jours de Baudelaire. Le livre de Philippe Labro, vous l'avez bien lu ?
Absolument, je l'ai bien lu. J'aime bien le livre de Labro, qui est un livre d'aventure, comme ça, qui est là. Et puis, on sent quelqu'un de profondément honnête, qui se bagarre avec lui-même, qui s'affronte à lui-même. La gare de Vannes, là, de Rousseau, c'est un formidable travail.
Qui a été récompensé par le Grand Prix de l'Académie française.
Exactement. L'objet perdu de l'amour dont je parlais de Brodeau, qui est un livre merveilleux, déchirant, où il donne tout, le courage de cet écrivain est vraiment admirable. Il y a des premiers romans aussi dont je voudrais parler. Il y a Luc Lang, le voyage sur le fil de l'horizon, qui est un livre merveilleux. On reparlera de Jacques Lang, on en parle souvent, mais souvenez-vous aussi de ce Lang-là.
Luc Lang.
Il y a Eugène Nicole, L'œuvre des mers, où il parle de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est admirable. Il y a Marc Lambron, L'impromptu de Madrid, qui est un livre très, comme ça, très bref, mais qui donne une envie incroyable de rencontrer Madrid et les dames madrilènes. Je dois vous dire que là, on a envie d'essayer de tenter sa chance à Madrid. Et puis, il y a Sureau, La corruption du siècle. Enfin, il y en a, j'ai lu. Je sais pas.
Vous avez lu le livre de Pierre Veitté, Marie Barbola?
Absolument, absolument.
C'est un livre qui aurait mérité d'aller jusqu'au bout, au moins.
Absolument.
D'être dans les six derniers, livre, au lieu de cinq, six.
C'est un livre aussi formidable, qui est un livre aussi sur l'identité. Et c'est le livre des grands rendez-vous. Mmh. Et c'est ça la phrase d'Aragon. C'est le grand rendez-vous. Et le grand rendez-vous qu'on a avec soi-même, qu'on a avec la tristesse, qu'on a avec son rêve d'adolescent. Plus on continue, il faut essayer d'aller le plus loin possible dans le rêve d'adolescent.
Mais est-il difficile, lorsqu'on a eu un prix comme celui-là, pour un livre comme celui-là, déjà salué par toute la critique, pour un volume comme celui-là? Car je veux dire, c'est un beau paquet cadeau pour la fin de l'année.
Ah, c'est un paquet.
Il y a le poids.
C'est un paquet.
60 pages, quelque chose comme ça.
C'est un paquet.
Bon, que va-t-on faire après? Y a-t-il déjà un livre qui est là sur le terrain? Avez-vous engrangé des mots, des phrases? Parce que je ne pense pas qu'on puisse se laisser aller à la facilité du succès.
Non, il y a eu des moments où je n'arrivais pas à le faire, ce gros livre. Alors, il y a eu un moment, par exemple, j'étais bloqué, je n'arrivais pas à le faire. Donc, j'ai fait un premier jet d'un autre livre, donc qui existe, sauf que ce premier jet, il est nul. Donc, je vais ou le jeter ou faire autre chose. Mais vous savez, il y a une phrase...
Mais sur un concept, sur un projet...
Sur un projet,
précis, sur une histoire.
Sur une histoire, oui, des histoires. Moi, je suis fou d'histoire, donc c'est sur une histoire. Oui. Mais vous savez, il y a la lenteur. Le roman, c'est peut-être des détails, mais c'est aussi le temps. Un roman, c'est le cadeau que le temps vous fait. Et il y a cette phrase formidable de Mark Twain, il faut attendre que la citerne se remplisse. C'est ça qui fait les romans. Donc moi, j'attends que la citerne se remplisse. Alors, c'est vrai que dans cette grippe merveilleuse du week-end dernier, j'ai eu une envie formidable de m'y remettre, formidable de ce silence du matin où on commence à relancer.
Vous profitez de ce livre, de ce roman, Eric Orsenna, pour dire tout ce que vous avez sur le cœur. Par exemple, il y a cette vie de l'Europe et cette vie vue par un Brésilien. Totalitaire. Je ne suis pas chimiste, mais il me semble deviner la composition de l'Europe, les proportions du cocktail. Trois parts à peu près égales, un tiers de vie, un tiers de mort, ou peut-être un peu plus, et un tiers d'une force intermédiaire, ni la vie, ni la mort, ni l'avancée, ni l'immobilité, l'attente. L'Europe est faite d'un tiers d'attente au moins. Les fleurs attendent avant de pousser, les cadavres attendent avant de pourrir, les amours attendent avant d'embraser. Et c'est une explication du livre, c'est tout le livre est comme ça. Il est fait de phrases, de choses qui vous prennent vraiment et qui vous poussent également, parce que c'est le fait du roman qui est fort, à réfléchir aussi. Alors demain, il y aura des phrases qui seront données comme ça aux élèves des écoles et vous allez vous retrouver comme un classique.
C'est malheureux.
Lorsqu'on devient classique, on est déjà près de la fin, à 40 ans.
Oui, mais enfin, j'espère réserver d'autres surprises. J'espère avoir, comme le héros, une certaine capacité de rebondissement. Enfin, je dois vous dire que l'appétit a été accru par cette formidable récompense. Et que je ne peux pas m'empêcher d'écrire, mais que j'ai une gourmandise du livre à venir qui grandit d'heure en heure.
Alors tout à l'heure, je parlais de l'Indochine, et j'allais l'oublier parce que les minutes passent vite. Mais c'est vrai que lorsque vous parlez de Saïgon, lorsque Gabriel repense à son séjour en Cochinchine, ça s'appelait Cochinchine à ce moment-là. Mmh. Aujourd'hui, c'est le Vietnam, et on le disait avec des guerres qui n'en finissent pas. Et il y a cette phrase, parce qu'il s'interroge un peu sur beaucoup de choses. Quelle est, sur cette terre, en cette fin de printemps 1954, la capitale du Faisandais? Réponse, Saïgon, rue Katina, terrasse du Continental. Et puis un peu plus loin, vous parlez de ce que l'on peut dire un peu partout, et vous situez tous ces propos du côté des nouveautés Katina, des brasseries et glacières de l'Indochine, de la société d'Escour et Cabot, de la librairie Portail, des galeries Charnière. Je veux dire que lorsqu'on cite tous ces noms, c'est nécessairement qu'on est allé en Indochine. Or, vous n'êtes pas allé à Saïgon. Vous parlez de la terrasse du Continental, qui est un lieu historique. D'ailleurs, demain, quelqu'un devrait écrire... Bon, le fils de Frantini, d'ailleurs, a écrit des livres.
Un très beau livre.
Des romans qui sont très beaux. Mais la terrasse du Continental, d'abord, c'est un titre. Et c'est toute l'histoire de l'Indochine. les traîtrises, les amours, tout s'est passé sur la terrasse du Continental. Et vous n'y êtes jamais allé?
Non, j'y ai pas été, mais vous savez, j'étais encore une fois à la Bibliothèque nationale, j'étais à la Bibliothèque de Londres, du British Museum, j'étais, je sais pas, c'est ça cette érudition. Moi, je suis fou de ces éruditions-là. Ce nom-là, d'avoir le nom des brasseries, d'avoir le nom de la librairie, c'est comme ça. Je sais que Patrick Modiano a des fiches surtout. Et c'est comme ça que le monde arrive. Le monde se donne pas comme ça. Le monde, c'est une somme de petits détails. Et encore une fois, un roman n'a rien à voir avec les idées générales. Un roman, c'est d'abord une petite référence, une odeur, un son, une syllabe. C'est ça. C'est comme ça que un climat arrive. Et c'est ça qui fait la magie du roman, que le détail s'enfle et vous occupe pendant une heure, deux heures, un week-end.
Mais Éric Orsenna, vous aviez lu les livres de Lucien Bodard,
bien
sûr,
sur
la guerre d'Indochine, de l'Artegui, de Hougron,
bien sûr,
de Graham Greene.
J'ai lu à peu près, je crois, tout ce qui existait sur la guerre d'Indochine. Et c'est vrai que moi, j'étais pris dans cette épopée, je dirais pour rien. On savait qu'on allait perdre. Ce qui m'a beaucoup bouleversé, c'est ces gens qui sautent, qui demandent à sauter sur Dien Bien Phu, alors que tout est perdu, uniquement pour être de cette aventure, pour être de quelque chose. Et ça, c'est vraiment bouleversant.
Et j'ai vu ces gens-là, quelques-uns de ces gens-là, au leur retour, c'est-à-dire blessés, comme vous pouvez croire, ceux qui n'étaient pas morts. Et ils étaient encore heureux d'avoir sauté. C'est vous dire jusqu'à quel point on pouvait vraiment leur faire confiance et combien ils ne savaient pas ce qui s'était passé en France, car c'était la France qui les envoyait là-dessus aussi.
Oui, tout à fait. La France, elle en est. Mais ce besoin de quelque chose, ce besoin d'amitié, même quand c'est fou, d'autres gens tirent les ficelles et font de la piastre, etc. Moi, j'ai pas à juger. Je trouve ça, c'est vraiment une des noblesses, quoi.
Alors, le Cap Horn, puisque vous souhaitez le passer, je n'irai pas avec vous. Londres, c'est trop facile. Le Brésil, on le connaît très bien tous les deux. Mais ce que nous pouvons faire, c'est partir tous les deux pour le sud des Asiatiques.
Alors là,
j'y ai passé les 7 années les plus chaudes de ma vie. Alors, je vous ferai visiter Hue. Je vous ferai visiter Saïgon, je vous ferai visiter les caodaïstes, puisque vous parlez des caodaïstes. Toutes les autres sectes aussi, les Bintsuyennes.
Victor Hugo, qui est un de leurs prophètes.
Jean Cocteau. Parce que là-bas, les saints s'appelaient Saint Victor Hugo, Saint Cocteau. J'espère qu'ils ont inventé aujourd'hui Sainte Marguerite Yourcenar.
Oui.
Non, parce qu'ils n'en finissent pas d'inventer.
Oui. Surtout avec le titre de son dernier livre, Quoi l'éternité. C'est quelque chose pour les caodaïstes.
C'est là-bas que ça se passe.
Donc vous prenez l'engagement.
Je prends l'engagement, nous partons pour l'Indochine tous les deux.